Du Tillet ne mit pas de point sur l'i de son nom. Pour ceux avec lesquels il faisait des affaires, cette erreur volontaire était un signe de convention. Les recommandations les plus vives, les chaudes et favorables instances de sa lettre ne signifiaient rien alors. Cette lettre, où les points d'exclamation suppliaient, où Du Tillet se mettait à genoux, était arrachée par des considérations puissantes. Il n'avait pas pu la refuser. Elle devait être regardée comme non avenue. En voyant l'i sans point, son ami donnait alors de l'eau bénite de cour au solliciteur. Beaucoup de gens du monde et des plus considérables sont joués ainsi comme des enfants par les gens d'affaires, par les banquiers, par les avocats, qui tous ont une double signature, l'une morte, l'autre vivante. Les plus fins y sont pris. Pour reconnaître cette ruse, il faut avoir éprouvé le double effet d'une lettre chaude et d'une lettre froide. « Vous me sauvez, Du Tillet !» dit César en lisant cette lettre. « Mon Dieu !» dit Du Tillet, « allez demander de l'argent. Nucingen, en lisant mon billet, vous en donnera tant que vous en voudrez. Malheureusement, mes fonds sont engagés pour quelques jours. Sans cela, je ne vous enverrai pas chez le prince de la haute banque, car les Keller ne sont que des pygmées auprès du baron de Nucingen. Il eût été l'eau s'il n'était pas Nucingen. Avec ma lettre, vous serez en mesure le 15 janvier, et nous verrons après. » Nucingen et moi sommes les meilleurs amis du monde. Il ne voudrait pas me désobliger pour 1 000 000. C'est comme un aval, se dit en lui-même Birotteau, qui s'en alla pénétrer de reconnaissance pour Du Tillet. Eh bien, se disait-il, un bienfait n'est jamais perdu. Et il philosophait à perte de vue. Une pensée aigrissait son bonheur. Il avait bien, pendant quelques jours, empêché sa femme de mettre le nez dans les livres. Il avait rejeté la caisse sur le dos de Célestin en l'aidant. Il avait pu vouloir que sa femme et sa fille eussent la jouissance du bel appartement qu'il leur avait arrangé, meublé. Mais ses premiers petits bonheurs épuisés, Madame Birotteau serait morte plutôt que de renoncer à voir par elle-même les détails de sa maison, à tenir, suivant son expression, la queue de la poêle. Birotteau se trouvait au bout de son latin. Il avait usé tous ses artifices pour lui dérober la connaissance des symptômes de sa gêne. Constance avait fortement improuvé l'envoi des mémoires. Elle avait grondé les commis et accusé Célestin de vouloir ruiner sa maison, croyant que Célestin seul avait eu cette idée. Célestin s'était laissé gronder par ordre de Birotteau. Madame César, aux yeux des commis, gouvernait le parfumeur, car il est possible de tromper le public, mais non les gens de sa maison, sur celui qui a la supériorité réelle dans un ménage. Birotteau devait avouer sa situation à sa femme, car le comte, avec Du Tillet, allait vouloir une justification. Au retour, Birotteau ne vit pas sans frémir Constance à son comptoir, vérifiant le livre d'échéance et faisant sans doute le compte de caisse. « Avec quoi paieras-tu demain ? » lui dit-elle à l'oreille quand il s'assit à côté d'elle. « Avec de l'argent, » répondit-il, en tirant ses billets de banque et en faisant signe à Célestin de les prendre. « Mais d'où viennent-ils ? » « Je te compterai cela ce soir. » « Célestin, inscrivez, fin mars, un billet de 10 000 francs, ordre Du Tillet. »« Du Tillet ?» répéta Constance, frappée de terreur. « Je vais aller voir Popinot, » dit César. « C'est mal à moi de ne pas être encore allé le visiter chez lui. Vend-on de son huile ?»« Les 300 bouteilles qu'il nous a données sont parties. » « Birotteau, ne sors pas, j'ai à te parler !» lui dit Constance, en prenant César par le bras et l'entraînant dans sa chambre avec une précipitation qui, dans toute autre circonstance, eût fait rire. « Du Tillet, » dit-elle quand elle fut seule avec son mari, et après s'être assurée qu'il n'y avait que Césarine avec elle. « Du Tillet qui nous a volé 1 000 écus ? Tu fais des affaires avec Du Tillet, un monstre qui voulait me séduire !» lui dit-elle à l'oreille. « Folie de jeunesse !» dit Birotteau, devenu tout à coup esprit fort. « Écoute, Birotteau, tu te déranges, tu ne vas plus à la fabrique. Il y a quelque chose, je le sens. Tu vas me le dire, je veux tout savoir. »« Eh bien, » dit Birotteau, « nous avons failli être ruinés. Nous l'étions même encore ce matin. Mais tout est réparé. » Et il raconta l'horrible histoire de sa quinzaine. « Voilà donc la cause de ta maladie !» s'écria Constance. « Oui, maman !» s'écria Césarine. « Va, mon père a été bien courageux. Tout ce que je souhaite est d'être aimé comme il t'aime. Il ne pensait qu'à ta douleur. »« Mon rêve est accompli, » dit la pauvre femme en se laissant tomber sur sa causeuse au coin de son feu, pâle, blême, épouvantée. « J'avais prévu tout. Je te l'ai dit dans cette fatale nuit, dans notre ancienne chambre que tu as démolie. Il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Ma pauvre Césarine, je... « Allons, te voilà !» s'écria Birotteau. « Ne vas-tu pas m'ôter le courage dont j'ai besoin ?»« Pardon, mon ami, » dit Constance, en prenant la main de César et la lui serrant avec une tendresse qui alla jusqu'au cœur du pauvre homme. « J'ai tort, voilà le malheur venu. Je serai muette, résignée et pleine de force. Non, tu n'entendras jamais une plainte. » Elle se jeta dans les bras de César et y dit en pleurant « Courage, mon ami, courage! J'en aurais pour deux s'il en était besoin. Mon huile, ma femme, mon huile nous sauvera. Que Dieu nous protège !» dit Constance. « Anselme, ne secourra-t-il donc pas mon père ?» dit Césarine. « Je vais le voir !» s'écria César, trop ému par l'accent déchirant de sa femme qui ne lui était pas connue tout entière, même après 19 ans. « Constance, n'aie plus aucune crainte. Tiens, lis la lettre de Du Tillet à Monsieur de Nucingen. Nous sommes sûrs d'un crédit. J'aurai d'ici là gagné mon procès. D'ailleurs, ajouta-t-il en faisant un mensonge nécessaire, nous avons notre oncle Pierrot. Il ne s'agit que d'avoir du courage. »« S'il ne s'agissait que de cela !» dit Constance en souriant. Birotteau, soulagé d'un grand poids, marcha comme un homme mis en liberté, quoiqu'il éprouvât en lui-même l'indéfinissable épuisement qui suit les luttes morales excessives, où se dépense plus de fluide nerveux, plus de volonté, qu'on ne doit en émettre journellement, et où l'on prend pour ainsi dire sur le capital d'existence. Birotteau était déjà vieilli. La maison à Popinot, rue des 5 Diamants, avait bien changé depuis un mois. La boutique était repeinte. Les casiers rechampis et pleins de bouteilles réjouissaient l'œil de tout commerçant qui connaît les symptômes de la prospérité. Le plancher de la boutique était encombré de papier d'emballage. Le magasin contenait de petits tonneaux de différentes huiles dont la commission avait été conquise à Popinot par le dévoué Gaudissart. Les livres et la comptabilité, la caisse, étaient au-dessus de la boutique et de l'arrière-boutique. Une vieille cuisinière faisait le ménage de 3 commis et de Popinot. Popinot habitait le coin de sa boutique, dans un comptoir fermé par un vitrage, et se montrait avec un tablier de serge, de double manche en toile verte, la plume à l'oreille, quand il n'était pas plongé dans un tas de papiers, comme au moment où vint Birotteau, et où il dépouillait son courrier, plein de traites et de lettres de commande. À ces mots, « Eh bien, mon garçon !» dit par son ancien patron, il leva la tête, ferma sa cabane à clé, et vint d'un air joyeux, le bout du nez rouge, car il n'y avait pas de feu dans sa boutique, dont la porte restait ouverte. « Je craignais que vous ne vinssiez jamais, » répondit Popinot d'un air respectueux. Les commis accoururent voir le grand homme de la parfumerie, l'adjoint décoré, l'associé de leur patron. Ces muets hommages flattèrent le parfumeur. Birotteau, naguère si petit chez les Keller, éprouva le besoin de les imiter. Il se caressa le menton, sursauta vaniteusement à l'aide de ses talons, en disant ses banalités. « Eh bien, mon ami, se lève-t-on de bonne heure ?» lui demanda-t-il. « Non, on ne se couche pas toujours, » dit Popinot. « Il faut se cramponner au succès. »« Eh bien, que disais-je ? Mon huile est une fortune. »« Oui, monsieur, mais les moyens d'exécution y sont pour quelque chose. Je vous ai bien monté votre diamant. »« Au fait, » dit le parfumeur, « où en sommes-nous ? Y a-t-il des bénéfices ?»« Au bout de 20 jours, » s'écria Popinot, « y pensez-vous ? L'ami Gaudissart n'est en route que depuis 13 jours et a pris une chaise de poste sans me le dire. Oh, il est bien dévoué. Nous devons beaucoup à mon oncle. Les journaux, dit-il à l'oreille de Birotteau, nous coûteront 12 000 francs. Les journaux ? S'écria l'adjoint. Vous ne les avez donc pas lus ? Non ? Vous ne savez rien alors, dit Popinot. 20 000 francs d'affiches, cadres et impressions, 100 000 bouteilles achetées, tout est sacrifice en ce moment. La fabrication se fait sur une grande échelle. Si vous aviez mis le pied au faubourg, j'ai souvent passé les nuits, vous auriez vu un petit casse-noisette de mon invention qui n'est pas piqué des vers. Pour mon compte, j'ai fait ces 5 derniers jours 10 000 francs rien qu'en commission sur les huiles de droguerie. « Quelle bonne tête !» dit Birotteau, en posant sa main sur les cheveux du petit Popinot et les remuant comme si Popinot était un bambin. « Je l'ai deviné. » Plusieurs personnes entrèrent. « À dimanche, nous dînons chez ta tante Rangon !» dit Birotteau qui laissa Popinot à ses affaires, en voyant que la chair fraîche qu'il était venu sentir n'était pas découpée. « Est-ce extraordinaire ? Un commis devient négociant en 24 heures !» pensait Birotteau, qui ne revenait pas plus du bonheur et de l'aplomb de Popinot que du luxe de Du Tillet. « Anselme vous a pris un petit air pincé quand je lui ai mis la main sur la tête, comme s'il était déjà François Keller !» Birotteau n'avait pas songé que les commis le regardaient, et qu'un maître de maison a sa dignité à conserver chez lui. Là, comme chez Du Tillet, le bonhomme avait fait une sottise par bonté de cœur, et faute de retenir un sentiment vrai, bourgeoisement exprimé, César aurait blessé tout autre homme qu'Anselme. Ce dîner du dimanche chez les Ragon devait être la dernière joie des 19 années heureuses du ménage de Birotteau, joie complète d'ailleurs. Ragon demeurait rue du Petit Bourbon Saint-Sulpice, à un deuxième étage dans une antique maison de digne apparence, dans un vieil appartement à Trumeau où dansaient les bergères en panier et où paissaient les moutons de ce 18e siècle dont les Ragon représentaient si bien la bourgeoisie grave et sérieuse, à mœurs comiques, à idées respectueuses envers la noblesse, dévouée au souverain et à l'église. Les meubles, les pendules, le linge, la vaisselle, tout était patriarcal, à forme neuve par leur vieillesse même. Le salon, tendu de vieux damas, orné de rideaux en brocatelle, offrait des duchesses, des bonheurs du jour, un superbe Popinot, échevin de Sancerre, peint par Latour, le père de Madame Ragon, un bonhomme excellent en peinture et qui souriait comme un parvenu dans sa gloire. Au logis, Madame Ragon se complétait par un petit chien anglais de la race de ceux de Charles II, qui faisait un merveilleux effet sur son petit sofa dur à forme rococo, qui, certes, n'avait jamais joué le rôle du sofa de Crébillon. Parmi toutes leurs vertus, les Ragon se recommandaient par la conservation de vieux vins arrivés à un parfait dépouillement, et par la possession de quelques liqueurs de Madame en fou, que des gens assez entêtés pour aimer sans espoir, disait-on, la belle Madame Ragon, lui avait rapporté des îles. Aussi, leur petit dîner était-il prisé. Une vieille cuisinière, Jeannette, servait les deux vieillards avec un aveugle dévouement. Elle aurait volé des fruits pour leur faire des confitures. Loin de porter son argent aux caisses d'épargne, elle le mettait sagement à la loterie, espérant apporter un jour le gros lot à ses maîtres. Le dimanche où ses maîtres avaient du monde, elle était, malgré ses 60 ans, à la cuisine pour surveiller les plats, à la table pour servir, avec une agilité qui eût rendu des points à Mademoiselle Mars dans son rôle de Suzanne du mariage de Figaro. Les invités étaient le juge Popinot, l'oncle Pierrot, Anselme, les trois Birotteau, les trois Matifat et l'abbé Loro. Madame Matifat, naguère coiffée en turban pour danser, vint en robe de velours bleu, gros bas de coton et souliers de peau de chèvre, des gants de chamois bordés de peluche verte et un chapeau doublé de rose, orné d'oreilles d'ours. Ces 10 personnes furent réunies à 5 heures. Les vieux Ragon suppliaient leurs convives d'être exacts. Quand on les invitait, on avait soin de les faire dîner à 7 heures, car ces estomacs de 70 ans ne se pliaient point aux nouvelles heures prises par le bon ton. Césarine savait que Madame Ragon la placerait à côté d'Anselme. Toutes les femmes, même les dévotes et les sottes, s'entendent en fait d'amour. La fille du parfumeur s'était donc mise de manière à tourner la tête à Popinot. Sa mère, qui avait renoncé, non sans douleur, au notaire, lequel jouait dans sa pensée le rôle d'un prince héréditaire, contribua, non sans d'amères réflexions, à cette toilette. Constance descendit le pudique fichu de gaz pour découvrir un peu les épaules de Césarine et laisser voir l'attachement du col qui était d'une remarquable élégance. Le corsage à la grecque, croisé de gauche à droite, à 5 plis, pouvait s'entr'ouvrir et montrer de délicieuses rondeurs. La robe mérinos gris de plomb, à falbalas bordée d'agréments verts, lui dessinait nettement la taille qui ne parut jamais si fine ni si souple. Ses oreilles étaient ornées de pins de loque en or, travaillés. Ses cheveux relevés à la chinoise permettaient au regard d'embrasser les suaves fraîcheurs d'une peau nuancée de veines, où la vie la plus pure éclatait aux endroits mats. Enfin, Césarine était si coquettement belle que Madame Matifat ne put s'empêcher de l'avouer, sans s'apercevoir que la mère et la fille avaient compris la nécessité d'ensorceler le petit Popinot. Birotteau, ni sa femme, ni Madame Matifat, ne troublèrent la douce conversation que les deux enfants enflammés par l'amour tinrent à voix basse dans une embrasure de croisée où le froid déployait ses bises fenestrales. D'ailleurs, la conversation des grandes personnes s'anima quand le juge Popinot laissa tomber un mot sur la fuite de Roguin, en faisant observer que c'était le second notaire qui manquait et que pareil crime était jadis inconnu. Madame Ragon, au mot de Roguin, avait poussé le pied de son frère, Pierrot, avait couvert la voix du juge et tous deux lui montraient Madame Birotteau.